Bonjour, bienvenue à l'émission M l'été, mardi 16 août. Merci de nous suivre à l'antenne de Canal M, Vues et Voix. On part ensemble pour une heure de belles rencontres et découvertes. On vous invite en forêt pour profiter d'une fin de semaine de camping qui ne manquera pas d'activité, mais qui se déroulera sous le signe de la lenteur, en toute simplicité et convivialité. Un réalisateur d'albums qui se réalise lui-même, une occasion de parler de sa musique et notamment du country. Aussi, une exposition qui s'intéresse au rapport entre la nature et la banlieue. Ça se passe du côté de Laval. Et puis, nous irons visiter, oui, un verger écologique qui ne manque pas d'intérêt, que vous soyez petits ou grands. Profitons ensemble de beaux moments à M l'été. Et plus précisément, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Carl Bastien, ce réalisateur et designer sonore parmi les plus prolifiques au Québec, qui a lancé un nouvel album. Nous irons visiter le verger La Bonté, situé à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, un verger écologique qui propose des activités bien particulières, dont un labyrinthe dans un champ de maïs, et aussi une exposition collective qui en est à sa troisième édition, Triennale banlieue interrègne à la Maison des arts de Laval. Mais d'abord, on reçoit Mathieu Pontbriand, fondateur du festival Grosse Lanterne, qui aura lieu en fin de semaine prochaine à Béthanie, en Montérégie-Est. Suivez-nous à M l'été.
1, 2, 3, 4.
Oui, c'est clair. Il fait noir. Sors des
La pièce « Dégel » de Julie et Dany, Julie Doiron et Dany Placard, qui roulent leur boss depuis des années et mènent chacun de leur côté une carrière prolifique et farouchement indépendante. En tant que Julie et Dany, ils ont créé et sorti en 2022 un album d'amour sympathique et tendre. Ces chansons, elles ont été composées en une quinzaine de jours de confinement au tout début de la pandémie. Alors, c'était en mai 2020, dans la maison que le couple venait de s'acheter au Nouveau-Brunswick. Alors, voilà, elles et ces chansons racontent vraiment leur quotidien, leurs moments de tendresse, d'ennui ou de défoulement, parfois simplement guitare et voix, mais toujours dans une douce ambiance de liberté et de simplicité volontaire. Voilà, et Julie et Dany font partie de la programmation du festival Grosse Lanterne, dont nous allons parler justement. En fait, c'est un événement de camping, un peu pour ceux qui aiment, entre autres, la simplicité volontaire. J'en parle avec le fondateur, Mathieu Pontbriand. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ah, mais merveilleusement bien. Et vous aussi, j'imagine, la fin de semaine approche. Et puis, c'est drôle parce que mon réalisateur ici a travaillé pour l'événement Grosse Lanterne, connaît bien l'événement. Alors, c'est ça donc?
Oui?
Ben oui, il nous en a parlé parce qu'on se demandait où était Béthany en Montérégie. Mais en fait, c'est une petite ville que l'on connaît moins peut-être, ou enfin, c'est un nom qui m'avait échappé.
Oui, ben en fait, c'est pas très loin de Actonville et Granby, Roxton Falls, si ça
c'est
peut
ça,
situer
exact.
Les gens un peu.
Et voilà. Donc, Mathieu Pontbriand, ben, vous êtes entrepreneur, musicien, éclairagiste de formation, et puis La Grosse Lanterne, c'est un organisme à but non lucratif destiné justement à valoriser la région de la Montérégie-Est par le biais d'une manifestation culturelle un peu hors du commun et rassembleuse avec la mission comme ça de promouvoir la musique, les arts visuels, la gastronomie, l'écologie et le plein air. En fait, c'est un moment vraiment pour les gens qui aiment se retrouver en forêt, en fait, avec une ambiance festive, et puis vraiment, il y a toute une idée derrière ça. Parlez-nous-en.
Ben, c'est écrit, en fait. J'aurais pas pu faire mieux, je crois, mais... ben, c'est ça, La Grosse Lanterne. Non, mais merci pour ce beau descriptif. La Grosse Lanterne, ben, c'est ça, c'est une histoire qui est partie en 2014. Et d'année en année, on s'améliore. Je pense qu'on peut utiliser le mot « micro-festival ». C'est très convivial. C'est bien de se retrouver en forêt. C'est amical, tout ça. Donc... on crée, nous, à travers les arts, on illumine la forêt, donc on crée une ambiance magique en soirée, mais aussi bien magique en journée aussi, parce que, bon, il y a la rivière Noire qui passe, les gens de la musique, de la rivière, du paysage, du bon temps, de la forêt, ils font des petites siestes, ils écoutent de la musique, boivent une petite bière dans la rivière, puis, ben, c'est ça, tu sais, c'est vraiment...
tout simple!
Donc, c'est un beau... comme une vacance. Donc, puis en fait, semaine, on est très... qui annonce tellement beau. Fait que tout est donc de notre côté en ce moment. On a une super programmation aussi cette année. On est vraiment fiers de ça. Donc,
ah oui, il y aura... Enfin, on en parlera. Il y aura notamment Branvan 3000, entre autres, oui.
Oui. Et puis... Oui, Branvan, en fait. Vous avez dit que je ne suis pas un éclairage de formation. Je fais la confession. Oui, mais...
Oui, on vous perd un petit peu, là, c'est ça. Vous êtes en voiture, je pense. Alors, c'est ça, malheureusement, c'est ça, le son est moins bon. Est-ce que vous nous entendez bien? On vient de le perdre. Ben oui, voilà. OK. Bon, ben écoutez, ce sont des choses qui arrivent. On va tenter de le joindre. En fait, l'idée, je vais juste continuer pour vous dire que l'idée, c'est que le participant sort un peu de son quotidien pour se laisser aller à l'ambiance festive et conviviale des lieux de cette fameuse forêt dont on venait de parler. Bon, les gens installent leur campement, préparent leur grillade, se rafraîchissent comme ça dans la rivière, alors peuvent danser, festoyer, alors au rythme d'artistes de la relève culturelle d'ici. Et justement, la pièce que vous venez d'entendre était de Julie et Dany, Julie Doiron et Dany Placard, qui feront partie de ce festival. On a parlé de Branvan 3000 aussi. Alors, et comme le disait Mathieu Pontbriand, bien, donc, il y a toutes sortes d'activités. Il y a du yoga, entre autres, en pleine forêt. Et puis, je pense qu'il va y avoir des projections de cinéma en plein air. Alors, la nuit venue, les festivités se poursuivent sous le ciel étoilé à travers des installations lumineuses. Donc, bon, alors, on parlait, je disais qu'il était de éclairagiste de formation. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais en tout cas, il est concepteur, chose certaine. Alors, effectivement, des éclairages qui donnent un peu de magie à cette forêt. Alors, voilà. Donc, ça se passe sur 3 jours en passant. Hein. C'est vendredi, samedi, dimanche qui vient. Et puis, donc, les gens apportent leur équipement de camping. Il y a toutes sortes de choses à respecter. Évidemment, si vous allez sur, je pense, sur le site de La Grosse Lanterne, ben, vous aurez tous les détails. Ben, c'est ça, je pense qu'on l'a pas... Est-ce qu'on l'a? On l'a retrouvé. Bon,
oui,
alors
ben,
je parlais finalement de cette ambiance, de dire ben, que les gens arrivaient, montaient leur campement. J'ai un petit peu situé la façon dont ça se fait. Et puis avec, comme vous disiez, les installations lumineuses à la tombée de la nuit. Et puis il y a du yoga également, du cinéma en plein air.
Oui, on fait du cinéma d'auteur avec en partenariat avec Plein Écran. Donc... il y a des réalisateurs qui présentent des films, tout ça. Ça, c'est un vendredi soir. Fait que vendredi, dans le fond, c'est une journée un peu plus... On démarre le truc là avec 3 artistes, Van Hou, Myriam Gendron et, plutôt, Dany Placard et Julie Boiron. Et ensuite, on entend le cinéma. Alors, fait que c'est la première journée, juste y aller graduellement, fort pour samedi, qui est une grosse journée, bien sûr, de bonne musique, de festivité.
Ouais, c'est ça. Donc, alors voilà. Puis bon, c'est sûr que il y a eu une pause, hein, parce que ça fait 7 ans quand même. C'est la 7e édition. Donc, vous reprenez vraiment, la grosse antenne revient enfin avec sa formule d'avant, depuis les débuts.
Oui, en fait, c'est parti, la grosse antenne. On était en partenariat avec Bon Sound Record avant, qui sont retirés de l'aventure, mais je veux dire, c'est pas. On est restés de très bons amis, tout ça. C'est juste qu'ils étaient ailleurs dans leur démarche. Mais nous, on n'a pas arrêté en pandémie. En fait, on a arrêté avant la pandémie parce qu'il y a eu, bon, ça a fait le changement de gouverne, tout ça, de le retour, en fait, que je reprenne tout le truc avec Martin Bergeron, qui est le propriétaire du terrain. Ça a fait 2 années de pause, mais nous, on est revenu avec une petite édition en 2020 et ensuite en 2021, un peu plus gros. Donc, avec évidemment toute la COVID et les normes sanitaires et tout ça. Donc, là, cette année, c'est vraiment super intéressant parce que là, on le fait en pandémie, puis là, on revient là vraiment en force pour une plus grosse édition. Fait qu'on est vraiment excités de tout ça.
C'est ça. Donc, à 1h15 de Montréal. Et puis, bon, c'est sûr que ça se veut quand même un événement. Vous voulez quand même pas que ça prenne trop d'ampleur non plus, parce que là, d'abord, c'est le fruit d'une rencontre avec Martin Bergeron, qui était propriétaire du site au départ, qui était destiné principalement à la tenue d'activités de Donjons et Dragons grandeur nature. Alors, ça s'est comme transformé, finalement.
Mais en fait, Martin continue à faire l'atelier du loisir, ces trucs. Oui, c'est un site qui font du GN, en fait. Là, et ça, c'est un événement que, en fait, moi, je voulais louer son terrain pour produire l'événement. Puis il était tellement excité par tout ça de la venue de la grosse lanterne qu'il a décidé d'embarquer avec nous. En fait, il m'a dit oui, ça m'intéresse, mais je veux être partner avec vous autres. Puis depuis ce temps-là, ben une belle amitié s'est développée entre nous autres. Puis, il reste lui et moi maintenant dans la grosse lanterne. Évidemment, il y a beaucoup de gens, sans parler de tous les gens qui sont impliqués tellement pour faire en sorte que ça a lieu, parce que nous, on n'est pas des temps pleins là-dessus. Il n'y a personne qui est à temps plein sur la grosse lanterne, quoique, mais il n'y a pas de salariés là-dessus. Il y a un conseil d'administration et tout, mais je veux dire, c'est un projet d'amour, comme je dis toujours.
On met
les bouchées doubles. Puis on fait en sorte que ça a lieu. C'est ça.
Alors vraiment, puis là, samedi, évidemment, ce sera la soirée, la journée la plus costaude, là, parce que il va y avoir des concerts de midi à 3h du matin. Ça, c'est pour ceux qui veulent se coucher tard.
Oui, 3h. En fait, c'est sur la scène principale. On entame la journée avec Alex Berger, avec Wally, Paul Jacobs, No Bro, Bon Enfant, Gasoline, Le Couleur, Brand Van. Ça, c'est pour la section de la scène principale. Puis ensuite, on s'en va, comme d'habitude, en fin de soirée. On entame la soirée plus DJ, qui est à l'autre scène, à l'auberge. Et c'est là, c'est Hologramme cette année qui a carte blanche. Moi, chaque année, je veux faire venir un artiste qui fait 3 heures carte blanche. Il y a des invités, tout ça. Puis tu vois, Hologramme cette année, lui présente les chansons de son nouvel album. Qui est une partie plus avec instruments de musique, tout ça. Et ensuite de ça, graduellement, on s'enligne vers la soirée DJ. Tu sais, il va continuer en DJ set. Mm-hmm. Et le dimanche, on va finir. Ça, c'est une première aussi. C'est qu'on fait des spectacles le dimanche. Fait que là, cette année, il y a Paul Jacobs qui va faire un petit set aussi, un deuxième set en bordure à l'auberge, en fait, à la deuxième scène qui est près de la rivière, près du camping. Et il y a aussi les vieux routiers de Yesterday's Ring qui vont finir la journée. Donc, en fin d'après-midi, ça va être pas mal terminé. Les gens vont pouvoir rentrer tranquillement, puis se remettre pour lundi pour le retour au travail.
C'est ça, bon. Et puis, vous avez quand même des camions de rue sur le terrain. Il y a des barbecues en libre-service. Il n'y a pas de douche nécessairement sur place, par contre, mais il y a aussi de l'électricité. Il y a quelques bornes de charge qui sont disponibles pour les cellulaires. Enfin, tu sais, bon, c'est en pleine forêt, mais tout de même, on fait ça simple, mais ça peut être agréable. Et puis, il n'y a aucun alcool venant de l'extérieur qui ne sera admis, bien sûr. Alors ça, c'est tout. Enfin, j'imagine que sur le site, on a tous ces détails-là, bien sûr.
Oui, c'est sur le site web, tout est là.
D'accord.
Et pour les douches, bien évidemment, non, il n'y a pas de douche, mais c'est des campings, puis on peut toujours aller se rafraîchir dans la rivière Noire, c'est très bien. Là.
C'est ça. Et malheureusement, compte tenu peut-être des problèmes potentiels, les animaux doivent rester à la maison, c'est-à-dire, c'est ça. Bon, on comprend très bien que dans ces événements-là, c'est moins évident. Alors, c'est parfait. Écoutez, alors, c'est vendredi, samedi et dimanche à Béthanie, en Montérégie-Est. Alors, vraiment, le festival Grosse Lanterne. Alors, c'est un beau rendez-vous. Merci, Mathieu.
Merci. Puis, si je peux dire, si vous voulez des billets, c'est sur grosselanterne.ca.
Parfait. D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Et bonne fin de semaine
bonne
à vous. Bye bye. Profitez-en.
Merci. Bye.
C'était la chanson « Blue Sea », une pièce composée par Carl Bastien. Et Carl Bastien, nous l'avons avec nous au téléphone. Bonjour, Carl.
Bonjour, ça va bien?
Ah, très bien. Alors, auteur, compositeur, interprète, réalisateur, multi-instrumentiste. Bon, enfin, on vous connaît bien sûr comme cette bête de studio. Fidèle complice de tout ce gratin musical québécois. Alors, bien sûr, tout le monde vous connaît dans le milieu, bien sûr. Mais là, vous avez vraiment retrouvé, assumé votre chapeau d'auteur, compositeur, interprète avec notamment cet autre album. En fait, c'est un mini-album, je pense, celui-ci.
Oui, c'est ça. J'ai sorti 3 mini-albums en 3 ans.
Et puis là, ben,
2020.
Vous,
ouais, ouais.
Vous pensez vraiment peut-être quoi, joindre tout ça ensemble, en faire un véritable album?
Peut-être bien, oui, parce que là, je planifie en faire un autre pour l'année prochaine, puis je verrai qu'est-ce que ça, je peux faire. Oui, j'y ai pensé pour peut-être un vinyle ou. Mais ça, c'est.
Ce sont des projets.
On lance ça dans les airs, ouais.
C'est ça, parce que évidemment, vous avez toujours été très prolifique. Bon, d'abord, citons en mentionnant que l'an dernier, on célébrait en 2001 les 20 ans de l'album Rêve et mieux de Daniel Bélanger. Vous étiez de ce grand projet comme réalisateur. Alors, vous étiez vraiment le designer sonore qui a soigneusement créé toute cette bulle qui enveloppe l'album tout entier. Alors, c'est sûr que bon, vous avez développé une grande complicité avec Daniel Bélanger, qui, j'imagine, vous a beaucoup encouragé aussi à faire votre propre musique.
Ah oui, absolument. Oui, oui, oui. J'ai Daniel, on a développé une relation humaine, amicale, là, après tous ces albums-là. Fait qu'on, donc, on se parle assez souvent. Puis effectivement, il a pu entendre ça puis m'encourager, me reconnaître là-dedans. Puis me dit que ça valait le coup.
Le coup, exactement.
Ouais.
Et puis, en fait, bon, Bluesy, ça vient d'un endroit où vous réfugiez, finalement. C'est un lac, Bluesy, dans la Haute-Gatineau.
Oui, c'est le nom de la ville aussi.
C'est ça, ah, d'accord, oui.
Comme nom.
C'est, bon.
Oui, c'est nos vacances là-bas. Donc, c'est sûr que, tu sais, je ne vais pas là pendant des mois, mais c'est juste... C'est ça, avec la famille, les enfants et tout ça, on se crée des souvenirs. Donc, pour moi, ça a de quoi de fort comme
exactement.
Comme ouais,
parce
ouais.
que là, vous avez vraiment choisi la musique country. En fait, pour vous, c'est un choix naturel. Bon, ce sont vos racines. Bon, vous étiez... Bon, au départ, votre père, lui, vous abreuvait de rock and roll. Mais enfin, je pense que c'est votre oncle hein, qui vous a peut-être mené à cette musique country qu'il écoutait beaucoup.
Oui. C'est un classique, feu de camp, là, tu sais. C'est vraiment... j'étais jeune, puis c'est la musique qu'on jouait au feu de camp, puis c'est très de mise. Ça faisait partie de notre culture. Malgré que sur cet album-là, j'explore un peu d'autres affaires, où ce que le country, pour moi, c'est ça qui est venu assez rapide pour me trouver, moi, en tant qu'artiste.
Mm-hmm.
Maintenant, j'explore là-dedans. Je peux utiliser... Tu sais, le country, il y a une franchise, faire passer des émotions sur des mots.
C'est ça.
Pour moi, c'est ça le country, tu sais, puis c'est rendu tellement vaste.
En effet, ben
ouais,
oui.
Ouais.
Tout à fait. Et on le voit d'ailleurs avec, bon, on a eu un festival country justement à Montréal en fin de semaine dernière, donc, alors on voit, bon, on parle de nouveau country maintenant, mais mm-hmm. En fait, vous avez jamais réalisé d'album country, étrangement?
Non. Non, peut-être le plus proche des trucs folk, mais même à ça, non, mais tu sais, la réalisation, hein, moi je fais l'album de la personne avec qui je travaille.
Oui, c'est ça,
donc,
ça dépend ce qu'on vous demande de faire.
Là-dedans avec Dumas, puis tout ça, parce que j'ai un côté de moi aussi qui est très, la personne en studio, oui, aussi tout le côté des claviers, puis tout ça que j'aime bien, donc c'est certain que peut-être j'étais... sollicité pour ça aussi, tu sais.
Ouais, exactement.
Ouais, puis il y avait moins de country avant. Au Québec, on était plus dans, tu sais, bon, il y a la famille d'Arèche, tout ça, mais eux, ils ont leurs gens avec qui ils travaillent, tu sais. Fait que.
Ouais, c'est vrai.
Ouais,
et puis
ouais.
En fait, bon, ben, c'est sûr que le country, remarquez, est très présent, mais c'est pas quelque chose qui était, qu'on entendait beaucoup à la radio, par exemple. Alors, c'était pas, il y avait
non.
tout un. Finalement, un public pour ça, mais sans que ça paraisse mm-hmm. nécessairement. Ou enfin, du moins, vous avez réalisé la plupart, bon, plein d'albums, évidemment. On pense à Dumas, Daniel Bélanger, on l'a dit, Damien Robitaille et bien d'autres,
oui.
enfin. Bon, des projets dont vous êtes très fiers, là, après toute cette carrière.
Ah, oh, mon Dieu, tous les projets que j'ai faits, j'ai adoré travailler, parce que c'est tous des gens... avec qui je pouvais avoir une relation humaine, ça partait toujours de là. Donc, faire les albums, j'ai travaillé avec Isabelle Blais, Charles Dubé, Ariane, mm-hmm. tu sais, c'est,
oui,
c'est
Ariane
tous des gens. Oui, c'est ça. Donc, j'ai tout aimé. Mais là, je suis dans mes affaires. Donc, ce que j'aime là en ce moment, c'est écrire des chansons.
C'est ça, parce que
c'est vraiment ça, mon amour. C'est comme si j'avais parti une nouvelle carrière. Je me sens débutant. c'est peut-être pas le bon mot, mais quand même, tu sais, c'est
ben,
c'est
dire, vous
au début
faites...
de cette carrière-là de chanteur, songwriter, puis tout ça. Ouais.
Mais vous le faites du moins, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez toujours composé et tout, ça vous habite, mais bon, oui. Vous étiez dans l'univers souvent des autres, mais quand même, vous aviez votre jardin secret, comme on dit.
Oui, mais,
bon. Mais
je composais plus en anglais avant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est,
et puis là, de trouver sa voix en français aussi, c'est particulier.
Exact.
Ouais.
Ouais.
En fait,
ça qui a été le cheminement a fait que là j'ai pu le faire parce qu'il y en a qui ont ouvert la voie aussi à un langage qui peut-être nous ressemble plus ici au Québec que d'être dans un français international, mettons, où ce que là j'avais pas ma place.
D'accord, oui, c'est ça.
Ouais.
Alors donc, vous avez abordé ce nouveau métier avec l'humilité du néophyte, même si vous êtes quand même quelqu'un qui a tout ce bagage derrière vous. Et puis, mais même si finalement, vous dites, même si c'est vrai qu'on vous reconnaît toute la compétence dans votre domaine et comme réalisateur et tout, et même si finalement, à la limite, vos chansons, vous êtes... Bon, même si vous vous sentez encore un peu néophyte, il demeure que vous êtes à votre place. C'est ça que vous dites?
Ah oui, absolument.
C'est ça.
Ah oui. Gros plaisir.
Oui, exactement.
Ah,
donc,
oui,
c'est quelque chose, c'est une aventure qui pourrait qui devrait normalement se poursuivre. Est-ce que vous avez l'intention peut-être de faire de la scène à ce moment-là?
Oui, je suis en train de préparer mes chansons. Puis la façon dont je les écris aussi, tu peux prendre ta guitare puis toutes les chanter. Donc, je suis en train de le monter seul, puis on va voir qui se greffera à moi parce que c'est difficile d'avoir tout le monde au niveau du budget, du temps, parce que ceux qui jouent live, ben des fois, ils vont aller jouer avec un autre aussi.
Oui, c'est sûr.
Mais j'aurai la possibilité de solo jusqu'à 5 personnes, comme ça.
Oui. Ouais. Alors, mais ça fait pas un peu drôle, vous réalisez vous-même, finalement?
Je suis entouré de musiciens, musiciennes. Nicolas Roberge, avec qui je travaille beaucoup sur plein d'autres projets, qui... on est quand même assez partner dans nos projets. Je me fie beaucoup à mes amis parce que honnêtement, c'est plus difficile pour moi de me réaliser.
C'est probablement normal, remarquez.
Pardon?
C'est probablement normal aussi.
Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que les autres venaient me voir. Je me retrouve un peu dans la même position que eux.
Ouais,
j'aime ça avoir la vie des autres. Puis ça pousse les... Ça pousse les idées plus loin que si c'était seulement les miennes.
C'est vrai. Enfin, j'imagine que la pandémie a été vraiment pour vous quand même un moment pour démarrer tout ça. En tout cas, Carl Bastien, ça a été très intéressant de vous parler. Hein. On aurait pu faire encore longtemps. Alors, on rappelle Blue Sea, ce mini-album qui est sorti tout récemment. Et puis, on attend les suivants, Carl Bastien.
Merci, Chantal.
Au plaisir, là.
Bonne journée.
Bonne journée à vous. Ouais.
Au revoir.
Et bonne composition. Au revoir.
Ah ben, merci beaucoup.
Vous écoutez Aime l'été.
Eh bien, deuxième moitié d'heure à Aime l'été. Et j'en profite pour remercier mes collaborateurs, Camille Cusset et Méliane Fafard à la recherche, ainsi qu'à la régie Nicolas Zwartmann. Et puis enfin, aujourd'hui, sera dévoilée la programmation de la fête de la musique de Tremblant. Et oui, cet autre bel événement qui aura lieu à la fête du travail, finalement. Alors, on en saura davantage sur la programmation qui a été concoctée par Angèle Dubois. Alors, voilà, j'ai eu l'occasion de suivre beaucoup cet événement au cours des dernières années. Eh bien, il en sera question, d'ailleurs, on va recevoir Angèle Dubois au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Voilà. Alors, maintenant, après la pause, après la musique qui va suivre, nous allons parler d'une exposition à la Maison des Arts de Laval, une exposition en lien avec la nature et la banlieue.
Dans mon quartier de banlieue, il y avait de l'action en Dorieux. Quand on était morveux, on jouait à cachette, ces terrains des voisins. Je restais caché pas mal longtemps dans avec la petite Chartrand. Il faisait pas beau, il y avait sous-sol à Guilbeau. Les petits gars ont capoté, c'est G.I. Joe. Et sur la sœur à la vallée, parce qu'elle en avait des gros. soleil sortait derrière les nuages. Ça s'animait partout dans le voisinage. On entendait les snapshots ses portes de garage. Dégueuler la mer à le phare. Le quartier s'est dispersé. On a vieilli. On s'est fait des nouveaux amis. Première blonde, mais c'était pas trop Cédé. Cédé qui était le premier à avoir son permis dans son Volkswagen. On écoutait du Led Zeppelin avec toute notre vie en avant, mais par un esti de soir vers la fin du printemps. Après un party d'été, c'est tué, il s'est endormi au volant. J'vais toujours me rappeler de qui pousse dans le ciment, sous des spots oranges du parc Champigny. C'est là que pour la première fois, on s'est donné un gros bis. Je pense que c'était le plus beau jour de ma vie. Après ça, je t'ai payé lunch au Kentucky. Je suis allé te reconduire avec le torse bombé. On dit que ce soir-là, j'ai bien dormi.
La chanson intitulée « Banlieue », chanson des Cowboys fringants, les Cowboys fringants qui font l'objet d'une exposition au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Et parlant d'exposition et de banlieue, une exposition qui nous invite à réfléchir aux spécificités de la banlieue et à notre relation avec la nature et nos écosystèmes, tout en étant sensibilisés aux grands enjeux environnementaux, eh bien, on en parle, cette exposition qui s'intitule « Triennale banlieue interrègne » à la Maison des arts de Laval, et j'accueille Marie Perrault, commissaire de l'exposition. Bonjour!
Bonjour.
Bon, alors évidemment, découvrir les liens entre nature et banlieue, c'est quand même d'autant plus pertinent que nous avons été amenés au cours des dernières années, là, pendant la pandémie, il va sans dire, à redécouvrir un peu notre environnement immédiat.
Oui, effectivement. Et puis, moi, quand j'avais été invitée pour la Triennale banlieue, C'est la troisième édition.
C'est ça.
Les autres éditions, c'était faites sur d'autres thèmes. Et puis, j'étais comme très surprise parce que c'est quand même une motivation importante pour les banlieusards de se rapprocher de la nature ou, dans tout cas, de fuir l'univers très minéralisé parfois de la ville.
Ben oui, d'autant plus qu'on sait que les gens ont déserté, ont déserté dans une certaine mesure la ville pour la banlieue, pour la campagne, ça va de soi, mais je veux dire même pour la banlieue. Alors, c'est ça. Donc, on s'est rapproché un petit peu plus de la nature, veut pas. Alors, troisième édition de ce parcours, donc, avec une autre approche. Alors, vous allez nous expliquer parce que, bon, il y a plein de choses là-dedans. L'événement qui s'intéresse au maillage entre les arts visuels cette année et la géographie.
Oui, alors la Triennale banlieue, il y a toujours un maillage en différentes disciplines. Et puis, ça avait été fait par le passé avec des disciplines artistiques. Mais dans tout ce qui est question de la nature, ça m'apparaissait intéressant de faire un lien avec des disciplines scientifiques. Alors, notamment la géographie. Alors, j'agis comme commissaire principal. Et puis, Yann Romaneski est co-commissaire. Yann est quelqu'un qui est actif dans le milieu des arts visuels, mais qui a une formation de géographe et qui travaille comme géographe. Et puis, Yann a fait un comité scientifique formé de biologistes, d'urbanistes, de géographes. Et puis, il y a différentes personnes qui sont intéressées par les rapports de l'humain à la nature.
Oui.
Et puis, c'est le contenu de leur réflexion autour des œuvres a alimenté notre interprétation des œuvres, puis structure aussi en partie les activités autour de l'exposition.
C'est ça. Et donc, ça réunit 19 artistes ou duos d'artistes du Québec, du Canada, de la France, et dont les démarches font écho à la place de la nature dans les banlieues nord-américaines. Enfin, nos banlieues à nous, là, comme on les connaît.
Oui.
Ouais. Notamment à Laval.
Il y a des artistes qui ont fait des projets spécifiquement pour Laval. Là. Il y a Ariane Plante qui a travaillé sur un boisé humide à Laval, puis qui a des activités aussi, qui a eu la fin de semaine dernière des activités à Éco-Nature, à la réserve faunique de la rivière des Mélines. Mm-hmm. Puis il y a Marie Côté, par exemple, qui, elle, présente une pièce au Théâtre du Petit Bout et à la salle Alfred Pellan, qui a travaillé
en collaboration...
À la Maison des Arts, puis qui a travaillé en collaboration avec un agriculteur de Laval pour rendre un hommage à son père, au père de M. Forget, qui était M. Yvon Forget, qui était issu d'une famille d'agriculteurs de Laval.
Ah, d'accord.
Il y a Mme Eugénie Riznik, qui a travaillé aussi autour de témoignages, autour de la culture de pommes de terre, qui a travaillé de témoignages d'enracinement et de déracinement ou d'acclimatation de l'humain dans un territoire. Parce qu'il faut dire que l'approche sur la nature est assez singulière. Elle ne regarde pas la nature comme objet, mais l'événement se penche plutôt sur le rapport de l'humain à la nature dans un contexte de banlieue. Alors, c'est vraiment ça qui fait l'objet de l'événement.
Vous parliez d'une dame, là. Elle est d'origine ukrainienne, je pense, hein, cette dame?
Oui, elle est d'origine ukrainienne, oui.
Ouais. Alors, effectivement, c'est 30 activités. Il y a 30 activités gratuites. Enfin, bon, d'abord, vous avez parlé des lieux, trois lieux différents. L'Éco-Nature Parc de la rivière des Mille-Îles, le Centre de la nature à Laval, hein, ça, c'est quand même un endroit important à Laval, et du théâtre. Et puis, vous avez, vous avez la Maison des Arts, bien sûr. Mais en fait, on parle aussi du théâtre du Bout de l'Île.
Oui, le théâtre du Bout de l'Île, oui.
Bon. Et bon,
ce qu'on appelle parfois le théâtre du Petit Bout, ce qui est, je pense, c'est pas son nom officiel. Là,
et lui, il est situé, ce théâtre, à quel endroit? Au centre de la nature?
Non, le théâtre du Bout de l'Île, il est situé dans le quartier Saint-François, vraiment à la pointe est de l'île de Laval.
Ah, d'accord.
Alors, à la confluence de la rivière des Mille-Îles et de la rivière des Prêtres.
Donc, forcément, où la nature est quand même très présente, c'est sûr.
Oui, oui, oui.
Donc, 30 activités gratuites. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de choses, des ateliers de création, tables rondes, des promenades, il y a lieu d'avoir des performances. Enfin, franchement, donc c'est et puis avec toute ce lien entre la nature et la banlieue, donc ça donne toute une dimension intéressante, donc, à cette exposition.
Oui, le public est invité à participer dans différents lieux, à différents types d'activités. Et puis, dans l'exposition couvre vraiment un large spectre d'expériences de nature, allant de l'agriculture, les jardins, les aménagements paysagers,
c'est ça,
d'achat, ou vraiment la nature sauvage, bien sauvage, quand même, sauvage à proximité des milieux humains.
Oui. Le mobilier urbain, j'ai vu des photos, justement, de bancs de parc, évidemment, dans une démarche artistique et tout.
Oui, bien, les bancs de parc, c'est parce que c'est dans l'œuvre de Eugénia Resnick. Les témoignages sont livrés, on peut écouter les témoignages qu'elle a recueillis des gens en s'assoyant sur des bancs qui ont été installés en façade de la Maison des Arts sur le terrain. Mm-hmm. Et puis du mobilier du Centre Laval qui a été déplacé, comme une jardinière du Centre Laval qui a été déplacée à la Maison des Arts. Puis il va y avoir une activité d'identification des plantes artificielles. Ça, c'est une œuvre de Catherine Lescarbot. Des plantes artificielles qu'il y a au Centre Laval dans la mi-septembre. Alors, c'est vraiment, ça couvre vraiment un large spectre, là.
Donc, des œuvres qui investissent vraiment le territoire lavallois et des lieux fréquentés par les citoyens et citoyennes, justement. Donc, ça donne toute une autre, comme on dit, toute une autre perspective à l'art et au milieu urbain. Ça.
Oui, ça donne toute une autre perspective. Puis il y a aussi comme une présentation, un extrait de la présentation où on est invité à sentir un arbre par son corps, là. Sentir des vibrations transmises par un arbre par son corps, puis où il y a un sondage qui est fait sur la perception des citoyens sur leur environnement. Puis ça, c'est vraiment, il y a vraiment différents lieux, différents parcs de Laval. Puis ça a lieu tout le long de l'événement sur une base régulière, là. Et puis à ça s'ajoute des activités de médiation.
Oui. Puis il y a des événements précis comme par exemple le 28 août, là, ça s'en vient quand même, au Centre de la nature. Il y a un atelier familial autour des œuvres Pulsation et exercice de cartographie. Enfin, qu'est-ce que c'est exactement, ce projet?
C'est ce que je vous disais, là. Pulsation, c'est vraiment...
Ah, c'est ça, c'est ce que vous disiez, là. Bon,
oui,
je comprends.
C'est ce que je vous disais.
Ah, oui.
C'est au Centre de la nature,
mais c'est
aussi dans différents lieux. En même temps, la même journée, le 28 août, au Centre de la nature, il va y avoir Pulsation, qui est l'arbre, une vibration qu'on sent dans l'arbre en étant très, très collé sur l'arbre. Alors, c'est là qu'on saisit comme l'écorce, qu'on a un rapport un peu corps à corps avec l'arbre. Puis, exercice de cartographie, c'est le sondage de Nicolas Grenier sur la perception de son environnement. Ça, c'est dans différents lieux de Laval, pas tout le temps en même temps, mais il y a comme un horaire. Je vous invite à regarder le programme. Puis tous les lieux sont identifiés. Puis le 28 août, c'est présenté au Centre de la nature. Et puis après ça, il y a une activité autour des arbres. Il y a une où on a réuni des spécialistes, puis on va échanger avec le public sur les arbres, la protection des arbres, l'importance de la canopée dans un contexte de banlieue ou dans un contexte très anthropisé. Et puis, le Centre de la nature, c'est quand même un centre qui accueille où se développe la forêt du 50e qui a été inaugurée, un projet qui a été inauguré puis qui est appelé à se développer.
Ah oui, parlez-moi-en donc.
Bien, ça, c'est un projet de la ville de Laval qui est dans le nord du Centre de la nature. Puis c'est une forêt qui a été plantée pour le 50e anniversaire de Laval.
Ah, je
qui
comprends.
Qui est appelé à se développer.
Ah oui, je comprends. Oui,
alors,
oui.
C'est un petit peu aussi pour souligner cette situation-là qu'on fait l'activité sur l'arbre, puis qu'on fait la déambulation avec des spécialistes sur les arbres.
Bref, Marie Perrault, c'est toute une exposition. Ça semble au départ, c'est très songé, en tout cas, chose certaine. Et puis les artistes qui, d'un côté, et puis des gens qui viennent du milieu plus scientifique, si on veut, de l'autre. Alors, vraiment, c'est une belle rencontre. Et puis c'est vraiment comme, dans votre mandat, vous, à la Maison des Arts, aussi en même temps, vous présentez, ça continue toujours. On peut aller sur place et voir aussi l'exposition comme telle.
Oui, l'exposition est en montre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et puis, l'exposition est quand même faite avec un souci d'accessibilité pour différents publics.
D'accord.
Alors, même si le propos semble très songé, beaucoup de gens qui ont vu l'exposition m'ont dit que tout le monde y trouve un petit peu son compte.
Exact. Aussi, alors, on va tout comprendre en allant sur les lieux. Ben, merci beaucoup, Marie Perrault. Alors, troisième édition de ce fameux parcours, donc, de cet événement. Commissaire de l'exposition triennale banlieue interrègne, présentée à la Maison des Arts, mais un peu partout, finalement, sur le territoire lavallois.
OK, bien, merci beaucoup aussi pour votre intérêt pour l'événement.
Merci beaucoup. Au revoir et passez une bonne journée. Et vous êtes là jusqu'au 10 octobre, je pense.
Fin octobre.
Fin octobre, voilà.
Jusqu'au 30.
D'accord, au 30 octobre, okay. C'est vrai. Merci, Marie Perrault. Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà, c'était les DJ Mike Perry et Mangou avec la chanteuse Wanja Janeva, voilà. Et la pièce avait pour titre Maze, qui signifie labyrinthe en français. Ben, parlant de labyrinthe, on vous invite à visiter un labyrinthe de maïs au verger La Bonté à Notre-Dame de l'île Perrault. Et oui, on en parle, mais on parle de bien d'autres choses avec Nathalie Gervais, directrice du verger. Bonjour.
Bonjour.
Alors, et oui, le verger La Bonté, qui est un lieu, en fait, vous le décrivez un peu comme ça, un lieu d'éveil et d'inspiration qui favorise le lien entre la nature et l'être humain. Enfin, c'est une approche éco-responsable, bien sûr. Vous faites de la pomiculture durable, entre autres. Alors, Nathalie Gervais, bon, d'abord, c'est une belle aventure hein, qui dure depuis 2003 déjà.
Ben pour moi, ça dure depuis 2003. Ça a été bâti par Monsieur et Madame La Bonté dans les années 1985. Mais pour moi, c'est ma 20e saison à avoir racheté l'entreprise dès La Bonté et d'être propriétaire au verger. Oui, effectivement.
Ah, d'accord. Donc, vous avez vraiment défriché. Ça, c'est dans les années 80 que bon, les anciens propriétaires avaient défriché la terre et puis planté les arbres et tout. Alors là, vous avez voulu aller beaucoup plus loin, donc faire une entreprise agricole agricole, agro-touristique et agroalimentaire encore plus poussée, finalement. Et bon, vous faites pousser quand même 20 variétés de pommes de culture écologique.
Oui, voilà, on est dans une transition biologique depuis maintenant 3 ans. On est en pré-certification. C'est quand même été un très grand défi, là, parce que la pommiculture en bio est quand même un assez grand défi. Et on a eu aussi la chance de travailler il y a une dizaine d'années avec Roland Joannin, qui est un agronome qui est un passionné des pommes et qui nous a vraiment amené à avoir plein de variétés qui ont été développées au Québec. Donc, on est plus de 21 variétés avec des variétés comme la Passionata, la Pichounette, la Poune, la Rosinette, la Honeycrisp, bien entendu, ouais. Et toutes les variétés habituelles. Mais oui, effectivement, on a une belle panoplie de pommes.
Donc, c'est ça. Et puis, bon, vous avez quand même, on sait qu'on est passé par une pandémie. Bon, 2020 a quand même pas été une période facile, mais enfin, en termes de, au niveau de la nature comme telle, il y a eu des sécheresses, je pense, il y a eu quand même un climat assez difficile pour vous.
Oui, mais chaque année a ses défis. Des fois, il n'y a pas assez d'eau, des fois, il y en a trop. on doit vraiment composer avec la nature, finalement. Mais c'est pour nous, ce qui était plus un défi, c'était l'année dernière, à cause de notre transition en bio, il y a des produits qu'on ne pouvait pas mettre et on avait perdu 50% de notre récolte l'année passée.
Ah, quand même. Ouais.
Mais cette année, la récolte, elle est extrêmement abondante, de toute beauté et vraiment, presque dans toutes les variétés, ça, les arbres débordent et attendent juste qu'on aille les croquer.
C'est bien. Alors, on a compris le message. Donc, vous avez appris à rebondir des épreuves et des défis que la vie mettait sur votre route, assurément. Donc, il y a toute une question de valeur aussi pour vous, très importante que vous avez, enfin, qui incarne cette entreprise-là, au fond.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai plus une formation. J'ai été ergothérapeute, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les hôpitaux. Puis pour moi, le côté humain a toujours été très, très important. Fait que je pense que c'est un petit peu la touche que j'ai pu apporter au verger. C'est vraiment le côté humain, le contact avec les gens, que les gens aient le contact avec la nature. Et on a la chance au verger d'avoir oui, les pommiers qui est un environnement. On a tout l'environnement aussi du maïs et on a un boisé de 125 années qui a presque jamais été touché, qu'on a commencé à explorer dans les dernières années avec des animaux, avec la boutique. Fait que c'est vraiment un tout. Fait que je pense que c'est ce que les gens aiment beaucoup, c'est que il y a de quoi vraiment. Puis on a tout et avec les citrouilles aussi. Donc c'est vraiment complet. Puis il y a un peu de tout. Fait que les gens souvent ont pas assez d'une journée pour venir chez nous et en profiter grandement.
C'est ça, pour tout voir, pour réaliser tout ce que vous avez sur le terrain. Alors, des petites idées qui deviennent de grandes idées. Alors, c'est un peu votre parcours, au fond. Et puis, bon, justement, parlons de... D'abord, vous avez aussi votre boutique. Enfin, vous vendez quand même... Vous faites apparemment des recettes de muffins absolument incroyables. Alors, des recettes de muffins aux pommes, bien entendu. Alors, ça, c'est très prisé par les clients.
Oui, c'est en fait, la recette existait avant notre arrivée et elle faisait partie de la transaction. Et à l'époque, quand j'ai acheté le verger, je ne connaissais même pas le verger, je ne connaissais pas les muffins, mais la première année, la moitié des clients venaient pour les muffins et l'autre pour les pommes. Alors, c'est une recette qui était tellement
connue,
populaire. Ouais. À un moment donné, on ne fournissait plus et on a même bâti un endroit là, pour la transformation alimentaire qu'on appelle maintenant la muffinerie, tellement que c'est très populaire.
Ah oui. Donc, à la fois, bon, cette boutique, bien sûr, mais c'est une fermette. Il y a tout un air de jeu, il y a un petit bistrot. Alors, c'est vraiment complet. Vous avez développé, tout à l'heure, on parlait de labyrinthe, là, mais c'est parce que vous avez développé toutes sortes d'autres projets, évidemment, pour que les gens vivent une expérience complète. Et puis, c'est ça, vous avez fait un labyrinthe dans le champ de maïs, quoi?
Oui, bien, en fait, on était un des premiers, il y a 15 ans, à partir des labyrinthes de maïs. Et l'idée, c'est que j'avais aussi eu la chance de travailler en Afrique et en Burkina Faso, un des pays les plus pauvres sur la planète. Et je me suis retrouvée quelques années après avoir un verger avec tellement d'abondance. Et je m'étais dit, s'il y a une belle récolte l'année suivante, je vais faire un labyrinthe et je vais parler de l'Afrique. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et j'ai rencontré une personne qui arrivait justement du Mali. Puis il avait bâti une petite maison. Il accueillait les gens avec du feu, avec des et il leur parlait de son pays. Et on avait fait un certain jeu. Et cette année-là, on a ramassé un dollar de chaque billet était remis à un organisme humanitaire et on a financé une école qui avait beaucoup de difficultés au Togo à l'époque. Et pour moi, c'était juste un projet qui durait cette saison-là, mais voilà que le projet dure depuis 15 ans. Donc, ouais. On a travaillé sur le Pérou, l'Inde, le Vietnam et tout. Et depuis 5 ans, mais là, je travaille avec plus une équipe de créateurs. Et on a eu le Sherlock Holmes l'année passée, l'Académie La Bonté des Sorciers cette année. Et avec ça, ben, on développe toutes sortes de jeux. Donc, dans le maïs, mais aussi dans le boisé. Donc, l'année passée, ouais. On a fait une espèce de jeu un peu comme Escape Room. C'est qu'avec tout ce qui se passait avec la COVID, on avait décidé de développer un jeu qui serait à l'extérieur, qui n'avait pas besoin de manipulation, puis que les gens pouvaient vraiment venir un peu à l'extérieur, donc s'amuser, profiter de la nature. Et c'était très apprécié. On a même ouvert cet hiver en patin et en raquette, c'était possible d'aller faire les jeux. Et finalement, ben, avec l'engouement, on a décidé d'ouvrir cette année. On a 4 jeux qu'on offre dans le boisé. Et ça nous permet aussi d'avoir un peu de repos dans nos labyrinthes parce que cette année, on n'a qu'un labyrinthe de maïs. Mm-hmm. Habituellement, on en a 3 pour donner repos à la terre. Et à la place, on a vraiment développé plus les jeux dans le boisé qui sont de tout âge. Donc, on en a 2 qui sont sous le thème de Sherlock Holmes. Et on a 3 jeux qui sont sous le thème de l'Académie La Bonté des Sorciers.
Ah, ben écoutez, alors c'est vraiment une belle expérience. Nathalie Gervais, directrice du Verger La Bonté, qui vous attend à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Alors, plein d'activités à faire et puis la cueillette des pommes, bien entendu, qui s'en vient. Merci, puis je vous souhaite une bonne fin d'été et puis un bon automne aussi.
Ben merci beaucoup, vraiment. Merci, puis on a hâte de tous vous voir.
D'accord.
Pour nous encourager. Merci bien.
Au revoir. Ah ben, chers auditeurs, ben oui, au revoir. Et puis, chers auditeurs, ben, je vous souhaite bonne journée et je vous retrouve demain, même heure, entre midi et 13h. Aime l'été.